On met aussi en commun des manières de s'informer et de se cultiver. Donc il y a eu pendant de très longues années Radio Klaxon qui squattait les ondes de Vinci, puisque, comme vous le savez sûrement, voilà, Radio Vinci émet sur toute la France sur 107.7, et donc sur la zone, bien étendue autour de la zone, sur 107.7, c'était Radio Klaxon. C'était quelque chose de... Pendant très longtemps, c'était quelque chose de très significatif d'arriver sur la zone, sur 107.7, et d'entendre et de passer sur Radio Klaxon, et on avait vraiment le sentiment de ça y est, voilà, ce territoire, il y a quelque chose de l'ordre de cette frontière, poreuse qui est dit par là. Il y avait aussi le Z News, qui était une newsletter hebdomadaire qui circulait. Il y a la bibliothèque, l'équipe médique, la legal team, les caisses anti-répression. En fait, la construction des communs, elle prend beaucoup de formes qui sont toutes liées les uns aux autres. Alors de manière plus ou moins ténue, mais ce ne sont pas des éléments complètement cloisonnés les uns des autres. On a même un phare, un bel emblème des communs, qui a été construit juste avant le pic de risque d'expulsion, pour dire non, nous on ne veut pas, parce que c'est en plein centre de la zone, à l'endroit où ils voulaient construire la tour de contrôle. Et donc c'était une manière de dire on ne veut pas une tour de contrôle, on veut une tour quand même, qui peut devenir une tour de défense, qui est aussi là pour alerter des dangers, accueillir au port, et puis aussi parce que, comme tu le disais, c'est un bel emblème des communs. Il y a tout un processus autour de la forêt, je vais essayer d'accélérer un petit peu, qui à mon avis est très très significatif autour d'un groupe qui s'appelle Abracadabra. Il y a une forêt d'environ 32 hectares au milieu de la zone de Notre-Dame-des-Landes. Et il y a un groupe qui s'est dit, en fait, cette forêt qui a été plantée il y a 50 ans et qui est laissée là, eh bien, c'est fort dommage de la laisser se réenfricher et de pas l'honorer. Et donc, il y a un groupe qui a décidé d'apprendre à connaître la forêt ensemble, donc avec programme de balades pour pouvoir avoir des partages de savoir avec des gens qui sont bûcherons, élagueurs, ingénieurs forestiers, naturalistes, passionnés, des gens qui pensent que couper les arbres c'est vraiment une catastrophe et qui s'engueulent de manière copieuse avec les bûcherons qui disent que bien évidemment il faut les couper. Enfin, c'était un processus qui a été plein de frictions mais aussi très très riche d'enseignements. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire de la forêt non pas juste une ressource, une réserve de ressources exploitables, ni une espèce de réserve sacralisée et mise sous cloche, mais quelque chose qu'on va partager de manière sensible. Et donc les arbres à couper sont choisis ensemble. Il y a des chantiers de silviculture douce, donc c'est-à-dire on ne sera même pas avec des grosses machines qui détruisent tout, mais où grâce à une coopérative de sylviculture en Ardèche qui viennent avec leurs chevaux pour enseigner le débardage sur place, on fait du débardage et les besoins en bois d'œuvre et de chauffe sont mis en pendant des besoins de la forêt, donc il n'y a pas de martelage comme à l'ONF, et donc il y a vraiment une attention aux interdépendances de la forêt et à son histoire. Donc par exemple, il y a un endroit qui s'appelle le sanctuaire. Il y avait des cabanes dans les arbres qui ont été incroyablement attaquées pendant les expulsions de 2012. Il était décidé collectivement que cet endroit-là, on n'y touchait pas. Il y avait quelque chose d'important de garder en mémoire de la lutte. Donc les chantiers collectifs, on les abat ensemble, on les sort, on les scie. On fait le calcul des besoins de bois d'œuvre et de bois de chauffe pour tout le monde. Et on priorise ensemble parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde nécessairement. Et donc, ça devient vraiment une base pour un apprentissage commun. Et les besoins et les priorités sont vraiment discutés collectivement. Et ça donne lieu à des chantiers, parce que cette approche-là, elle résonne beaucoup. Et donc, par exemple, il y a eu des chantiers où des charpentiers et charpentières qui utilisent des méthodes traditionnelles sont venus faire un chantier avec le bois qui était sorti de Roanne pour, euh, enseigner leur méthode et pour faire ce qu'on a appelé le hangar de l'avenir, donc un hangar, quand on devient une espèce de cathédrale au métier du bois, qui a été levé en 2016, donc à l'époque où il était fort possible qu'il soit détruit dans les mois à venir. Mais parce qu'il y a vraiment cette idée que les communs, c'est aussi, comme je le disais plus tôt, ce tissage permanent du nom de la résistance et du oui de la construction. Et du coup, des chantiers écoles ont lieu régulièrement pour continuer à partager ces savoirs pratiques et théoriques, puisqu'il y a vraiment une volonté de continuer à décloisonner. Et donc, les chantiers, par exemple, les chantiers collectifs autour du bois donne lieu aussi à des présentations de philo, d'histoire de l'art. Donc on fait le lien avec qu'est-ce que ça veut dire l'ornementation sur un projet comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui continue de grandir et d'évoluer. Une des choses très intéressantes par rapport à cette historique, c'est 6 ans de liberté, je dirais, c'est que l'absence d'assujettissement aux diverses réglementations, ça laisse la place à une créativité qu'on a du mal à trouver quand il faut répondre aux réglementations en tout genre. Donc ça donne lieu à des possibilités architecturales et autres assez incroyables. Et que donc, par exemple, cette cabane, elle était construite par des comités de soutien pour pouvoir venir plus régulièrement participer aux activités, les échelles différentes toujours. Et que là, quand on voit la diversité de types d'architecture, ça reflète assez bien la diversité des perspectives politiques qui ont fait la vie de la zone pendant très longtemps, où il y avait vraiment à la fois des permaculturistes qui refusaient de labourer la terre et les tracteurs que je vous ai montrés plus tôt. Il y avait des gens qui avaient plutôt une attitude qu'on appelle primitiviste, qui ne voulaient pas d'électricité, qui ne voulaient avoir aucun véhicule ou engin motorisé là où ils vivaient, avec des gens qui s'y prenaient fort autrement, des gens qui étaient dans une logique très antispéciste, qui vivaient à côté d'éleveurs laitiers dont certains étaient sur place depuis 5 générations. Donc une fois de plus, dans cette logique de ne pas tomber dans le récit bisounours, il y a eu quelque chose ça donnait lieu à des conflits d'usage très très forts, forcément. Parce que quand on a des gens qui veulent absolument avoir une zone non autorisée et des paysans qui viennent en tracteur, vous imaginez bien comment à certains moments ça donne lieu à des discussions qui sont plus que vives. Et que ça, c'est pour moi, une des dimensions les plus intrigantes et les plus complexes de la vie des communs, c'est la prise de décision et la gestion des conflits. Et que nous, on voit sur la ZAD, il y a vraiment plusieurs niveaux de décision, plusieurs thèmes. C'est vraiment une articulation très complexe. Il y a eu, par exemple, ce qui s'appelle l'Assemblée du Mouvement pendant des années, qui était une assemblée du mouvement dans son ensemble, qui était mensuelle. Puis il y a eu la création de l'Assemblée des usages, qui était beaucoup plus pour les usagers. Pendant des années, il y a eu l'Assemblée des habitants seulement, il y a les réunions d'assolement. C'est vraiment un paysage très très complexe qui s'articule. Puis il y a tous les groupes de travail qui s'organisent et qui après se coordonnent ou pas. Parce qu'il y a aussi des trous dans la raquette. Il y a aussi des groupes qui n'arrivent pas à s'entendre. Et moi, j'ai de très très gros doutes sur le récit des communs, non seulement sans conflit, mais uniquement fait de conflits résolus. Je pense qu'en fait, il y a aussi une part des communs, quels qu'ils soient, où il y a des conflits qui restent, qui persistent et avec lesquels on apprend à faire et qui, dans certains cas, comme à la ZAD, donnent lieu à des ruptures et à des départs. Je pense que ça fait partie des éléments qui, à mon avis, se doivent d'être étudiés plus avant. Je pense pense que quelque chose de particulièrement intéressant à la ZAD, c'est que, et on parlait d'imaginaire ce matin, et je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très très fort, c'est que c'est un mouvement qui a eu l'intelligence de penser son avenir post-aéroport avant même la prise de décision. C'était, d'un certain côté, d'avoir la faire preuve d'une volonté d'imagination qui rend impossible non seulement imaginable, mais palpable, qui lui donne les moyens. Et donc, par exemple, il y a eu les 6 points pour l'avenir de la ZAD, qui déjà, en 2015, disait qu'il y aurait une entité juridique issue du mouvement qui déterminerait l'usage des terres, alors redistribuées par AGO Vinci, que ça ne serait pas une entité étatique qui s'occuperait de l'organisation de cette organisation des usages. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très fort dans la possibilité de se projeter et d'ancrer des pratiques et non pas de se retrouver dans une situation où la décision de l'abandon de l'aéroport est prise et les gens ne savent pas quoi en faire. Les 6 points pour l'avenir de la ZAD, c'est une des nombreuses dimensions de cette capacité. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres endroits où il y a eu beaucoup, beaucoup de textes qui ont été produits sur cette projection-là. Je vais aller un peu vite sur 2016. Il me semble que c'est une année importante parce qu'il y a vraiment une offensive du gouvernement. 2016, c'est l'année où tous les recours juridiques sont épuisés. Donc il n'y a plus d'obstacles légaux. Voilà, donc même les paysans historiques deviennent squatteurs. Et il y a une fois de plus une espèce de déploiement de résistance incroyable. Donc 9 janvier 2016, on occupe le pont de Cheviré, qui est le pont qui enjambe la Loire pour lier Nantes au reste de la région. C'est 20 000 personnes, 500 tracteurs, 1 000 vélos. Et à ce moment-là, Valls parle de la zone comme un territoire perdu de la République, ce qu'on n'a pas pris comme une insulte, nous, personnellement. Et donc, vraiment, donne rendez-vous au mois d'octobre en disant de toute façon, les expulsions auront lieu avant octobre. Il y a Retailleau, qui était président de la région à l'époque, qui dit que la ZAD est plus dangereuse que Mossoul en Irak parce que lui, il ne peut pas y aller. Enfin, on est dans une espèce de fantasme complètement délirant. En février, 60 000 personnes occupent la 4 voies qui encercle Nantes avec des concerts. Enfin, vraiment, une fois de plus, c'est une espèce de fête de rue à très grande échelle. Et Valls, toutes les semaines, annonce au Parlement qu'il va évacuer la zone très bientôt. On va y aller. Toutes les semaines, hein, il annonce les expulsions imminentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant toute cette période-là, la construction et la vie des communs n'a jamais cessé sur la zone. C'est quelque chose, il n'y a pas eu une espèce de mise en pause parce qu'il fallait s'atteler à la résistance. Vraiment, les deux brins d'ADN dont je parlais n'ont jamais, jamais cessé d'être complètement tissés. On fait aussi des rituels qui sont déguisés en manifs, avec au mois d'octobre une très grande manifestation, plus de 40 000 personnes viennent, et où on les invite à venir avec un bâton et à aller planter leur bâton dans le sol de Notre-Dame-des-Landes en faisant le serment de revenir reprendre le bâton si jamais il y a des tentatives d'expulsion. Et puis voilà, 17 janvier 2018, ils annoncent l'abandon du projet d'aéroport en étant très clair, puisque dans le même souffle, ils annoncent que la ZAD est une zone de non-droit et que ceux qui restent dans le non-droit seront expulsés. Donc voilà, on sait déjà qu'il va y avoir une opération militaire forte. Il y a un point à ce moment-là qui est déjà annoncé et qui donne lieu à de très 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 forts conflits et à des blessures qui, à mon avis, ne se refermeront pas avant très très longtemps autour de ce qui a été longtemps appelé la route des chicanes, donc qui était une route départementale qui traversait la ZAD et qui avait été occupée au moment de l'opération César, qui avait été complètement bloquée pendant l'opération César, et qui était restée quasiment non circulante pendant toutes ces années, où il y avait des chicanes juste pour pouvoir accéder aux champs, et qui était un site de conflit d'usage très très fort. Et donc, le gouvernement annonce dès ce discours-là qu'il faudra la dégager. Alors je pense, en étant tout à fait conscient, que c'est un point de levier très efficace pour accentuer les tensions déjà existantes dans le mouvement. Et donc, voilà, avril 2018, opération militaire. Alors là, on est vraiment passé à un niveau. C'est 2500 policiers, des tanks, les drones, les hélicoptères. Ils font 300 blessés en 3 jours. En 3 jours, ils balancent 11 000 grenades lacrymogènes et des encerclantes. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez clair sur la détermination qu'ils ont à faire en sorte que ça aille dans le sens où ils veulent. On voit une fois de plus la diversité de la résistance et des tactiques. Et il y a plus de 40 lieux qui sont détruits, notamment en se concentrant beaucoup sur ce qu'on appelle la zone est de la zone, qui est plutôt l'endroit, même si c'est un peu caricatural de réduire à ça, endroit où il y avait les conflits d'usage les plus importants. Ce qui est très intéressant, ce qu'on voit là, c'est l'articulation des différentes échelles qui se retrouvent illustrées par les démonstrations de soutien international qui sont complètement fous. Alors là, je vous en montre 3, on a dû en recevoir 400, et qui montrent vraiment cet imaginaire des luttes connectées. Parce que là, voilà, c'est Barcelone. Alors, je ne les ai pas choisis pendant les présentations de ce matin, et pourtant, voilà, il y a Barcelone, la Palestine, les Mexicains d'Atenco. Et évidemment, cette dimension imaginaire, ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'en fait, des liens ont été tissés pendant toutes ces années avec des gens qui ont fait le lien, qui sont allés au Chiapas, qui sont allés à Atenco, qui sont allés à les Mapuche. Enfin, c'est... Et que je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport à la discussion qu'on avait ce matin, c'était jamais dans une espèce de visée à vouloir faire ensemble, se coordonner. C'était vraiment beaucoup plus de l'échange de pratiques. Et si coordination il y avait, c'était pour pouvoir se rendre plus fort mutuellement. Mais pas dans une espèce de truc écrasant de haut en bas pour pouvoir avoir une politique internationale. 4 jours, après 4 jours de destruction et de violence assez inouïe, il y a la proposition de la préfète qui est assez extraordinaire. Donc il y a un refus absolu de toute solution collective, y compris les solutions type Larzac. Et ce qui est intéressant, donc il y a l'obligation de se déclarer de manière individuelle. Voilà, il faut signer. Ils inventent même ce formulaire d'une page absurde. Je ne comprends pas, moi, personnellement, comme une préfète peut faire un sourire pareil devant les journalistes avec un truc à 4 qu'elle vient de pondre histoire de trouver une solution. Mais en gros, c'est il faut impérativement se déclarer de manière individuelle. Donc il y a vraiment quelque chose de le commun doit s'arrêter. On va l'écraser par tous les moyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait semblant de ne pas comprendre la différence entre collectif et commun. Ce qu'elle n'arrête pas de dire, c'est vous pouvez tout à fait faire des projets collectifs une fois que vous vous serez déclaré individuellement, puis après vous vous remettrez ensemble. Ouais, la logique des communs, c'est pas tout à fait ça. Et ce qui est la réponse qui est donnée, c'est qu'il va y avoir des déclarations nominatives et qui mettent à jour la dynamique des communs. Donc sur les fameux formulaires, l'idée c'est qu'il y a effectivement des gens qui vont mettre leur nom, mais qu'en fait, bout à bout, les 40 fiches qui vont être rendues au gouvernement vont montrer à quel point les terres et les activités sont complètement entremêlées. Tant et si bien quand même que les gens du département des territoires, c'est quoi, département, bref, la DDTM, donc les représentants de la préfecture qui font le lien avec la délégation on finit par dire, mais franchement, ce serait tellement plus simple si on vous signait un truc global, parce que c'est vraiment l'enfer, votre manière de faire. Là, c'est bien en même temps, vraiment, ça marche, on voit bien que ça marche, mais nous, on ne sait pas comment faire. On n'a pas les outils pour... Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à cet endroit-là. Et du coup, l'idée, à ce moment-là, c'est de rentrer dans un cadre légal, mais de renforcer nos manières d'habiter et de se lier. Et donc, de faire le pari que rentrer dans un cadre légal, ça n'est pas se faire écraser et étouffer par les réglementations et la normalisation qui vient avec. Et ça, c'est, bien entendu, quelque chose qui fait rupture sur la ZAD et qui va faire que, en plus de la destruction de plus de 40 lieux de vie, il y a beaucoup de gens qui ne font pas le même pari. Donc c'est une fois de plus pas le récit bisounours, on n'est pas tous en train de chanter Kumbaya en se tenant les mains, c'est que ça a donné lieu à des ruptures assez fortes. Le pari qui est fait sur la ZAD de nos jours, c'est celui-ci. Et que sur le terrain, parce que quand même l'opération militaire continue pendant les négociations avec la préfète et son formulaire absurde, il y a des gestes qui continuent à ancrer ces communs, tant au niveau symbolique, donc avec une mise en scène de la capacité collective à répondre avec force. Donc il y a eu un bâtiment collectif qui a été détruit, et pendant 4 jours, il y a les charpentiers dont je vous parlais plus tôt, qui ont tous déboulé sur la ZAD, et qui pendant 4 jours ont construit comme des fous cette charpente monumentale qui a été portée à 250 sur 4 km à l'endroit où il y avait une structure collective qui avait été détruite, en disant voilà, vous pourrez continuer à détruire, nous on continuera à construire et on construira ensemble. Et ce geste-là, il a fait partie des mimes, il a fait partie des histoires et des récits qui ont vraiment fait une très très grosse différence en termes de garder l'espoir pour pouvoir continuer. Mais il y a aussi, sur le terrain pratique et juridique, donc avec notamment la création d'un fonds de dotation dont j'ai parlé un tout petit peu ce matin, qui est une structure juridique qui vise à racheter les terres de la ZAD de manière collective. Donc c'est une structure qui rachète sans part ni action. Ça veut dire que les gens qui mettent de l'argent dans cette structure juridique ne peuvent pas récupérer leurs billes. Donc ça veut dire que cette structure juridique devient propriétaire des terres, avec cette idée qu'en fait, on ne peut pas faire confiance aux propriétaires privés, donc ni au marché, ni à l'État, pour pouvoir sécuriser, pérenniser ces pratiques des communs. Il n'y a que nous qui sommes en mesure de le faire. Et donc, il y a cette structure juridique qui est mise en place, avec un conseil d'administration qui est formé de gens issus de la zone, et qui, après, délivre des baux d'usage aux gens qui ont des activités sur la zone, et ce qui permet de délier la propriété de l'usage. Ce qui, à mon avis, est une dimension fondamentale pour les communs. Et donc voilà, il y a la signature de baux, c'est un peu technique, je pourrais revenir si vous avez des questions. Et juste pour finir rapidement, il me semble qu'on a bien là à faire un exemple frappant de ce que Staggers et Gurvitt nomment la résurgence des communs. Et donc pas la renaissance. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec Pierre ce matin pour faire attention aux fantômes médiévaux qui reviennent. Mais là, en fait, on a vraiment une résurgence, c'est-à-dire retrouver des pratiques où on prête attention aux conséquences de ce qu'on fait, où on fait ensemble, mais où, en fait, il y a eu toute une période où cette expérience-là a été perdue, où tout est à réinventer. Les coutumes, les traditions, il faut les refaire, et ça laisse un champ qui est incroyablement stimulant. Et ce que j'espère avoir montré, c'est qu'il y a vraiment la dimension sensible de ces processus qui ne peut être ignorée. Ce n'est pas juste une série de processus ultra rationnels. C'est voilà, pourquoi on s'engage, comment on prend les décisions, qui est dedans, qui est dehors, tout ça, ça n'est pas issu que de discussions ultra-rationnelles. C'est aussi issu de processus très sensibles. Et en ça, moi, je vois un parallèle fort entre les communs sur la ZAD et ce que décrit la géographe Nir Singh à propos du processus de protection de la forêt par des communautés locales, notamment à Odisha, en Inde, où elle explique que voilà, tout, il y a eu un processus d'enclosure des forêts depuis avec toutes les pratiques coloniales, et qu'il y a énormément de communautés très, notamment très pauvres en Inde, qui dépendent complètement de la forêt et qui se sont retrouvées à certains moments avec leur source de vie, pas juste leurs ressources, mais leur source de vie qui était en train d'être détruite, et qui donc se sont organisées pour pouvoir la protéger, avec notamment des patrouilles, surtout par des femmes. Et en fait, elle montre très très bien que ce processus-là, ça crée des subjectivités particulières. C'est qu'en fait, on devient commoner, et on apprend à avoir un rapport sensible avec la forêt et avec les uns avec les autres, de par la pratique même des communs. Et que ça me paraît vraiment très très intéressant. Et qu'une des choses particulièrement intéressantes, c'est qu'il n'y a pas d'incitation pécuniaire ou autre. Même dans le cas de ces communautés en Inde, c'est souvent à fort grand coût pour eux. Ils payent parfois de leur vie pour pouvoir protéger la forêt. Donc c'est pas justement juste ces motivations purement rationnelles. Et qu'en fait, ce qu'elle démontre assez bien, et que j'ai trouvé très joli, donc je vous laisse pour finir, c'est qu'elle dit que les relations intimes avec le territoire, elles se construisent de la même manière qu'avec quelqu'un. C'est en passant du temps ensemble, en prenant soin, en se battant pour. Et que moi, j'ai vraiment eu cette expérience-là sur la ZAD, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai pour la majorité des communs qui tiennent dans le temps partout ailleurs. Voilà, merci.